Bonjour Gérard Aubron et Stéphane Pichelin, m'ayant sympathiquement cédé leur créneau, je vais pouvoir vous proposer une nouvelle interview réalisée à l'occasion des 30 ans du Centre d'Histoire du Travail. Notre invité, Jérôme Baron, président du cinématographe et programmateur du Festival des Trois Continents, sera l'un des trois invités de la table ronde organisée le 1er octobre prochain à 17h au lieu dit la Maison des Hommes et des Techniques. Gérard Mordilla et Anne Mathieu seront les deux autres complices.
D'un point de vue plus personnel, c'est très curieux parce que, en fait, je dirais que mon histoire un peu cinéphilique, elle démarre aussi avec une expérience assez ancienne où j'étais allé à la Bourse du Travail avec mon grand-père un dimanche matin, parce que grosso modo, soit j'allais à la messe avec ma grand-mère, soit j'allais à la Bourse du Travail avec mon grand-père quand j'étais chez eux le week-end. On était allé à la Bourse du Travail un dimanche matin, je me souviens, je devais avoir 11-12 ans. Alors j'ai découvert quel était le titre du film, mais beaucoup plus tard. Et mon grand-père a toujours été en retard toute sa vie, c'était un peu son programme. On est arrivé, il y avait un film qui était en 16 mm qui était projeté à la Bourse du Travail un matin, comme ça. Et donc le film était commencé, c'était un documentaire en noir et blanc, avec une voix off, et ça se passait dans une bibliothèque nationale de Paris. Alors moi au début j'avais pas trop compris que c'était un documentaire, mais ce film m'a totalement, mais vraiment fasciné. Je crois qu'il m'est resté en tête des années, jusqu'au jour où j'ai découvert que c'était en fait le film de René Marker, pardon, qui s'appelle Toute la mémoire du monde. Et d'une certaine manière, il y avait une espèce de jonction comme ça entre la rencontre de ce film et la Bourse du Travail. Et d'autant que le travail de Marker et René à cette époque-là était vraiment de constituer, alors comme un certain nombre d'autres documentaristes français dans les années 50, de rénover le documentaire de fond en comble en faisant un cinéma sérieux, mais aussi d'une certaine manière un objet éducatif. Je crois qu'il y avait une préoccupation comme ça autour de questionnements qui étaient liés à l'éducation populaire et autres après-guerre, auxquels ils ont pris part d'une manière ou d'une autre avec d'autres cinéastes à l'époque, et qui étaient vraiment d'utiliser le cinéma non seulement comme une création artistique, mais aussi pour être un vecteur de savoir ou d'expérience. En y réfléchissant comme ça, à distance et de façon un peu réflexive, c'était une rencontre assez inédite et pour moi, finalement, assez fondatrice.
Ce titre, La voix de son maître, je le trouve exécrable. Exécrable. Et ceci, pour 40 raisons, encore une fois, dont je ne donnerai que deux ou trois. La première, vous avez pris une expression toute faite, connue, rodée, éculé, je dirais. Et cette expression d'abord inclut le terme maître, qui est particulièrement mal adapté, et dans l'esprit de tout le monde, elle fait allusion à un chien. Bien sûr qu'on aime bien les chiens, mais dans toutes les langues occidentales, le terme chien à quelque chose de mauvais.
Je ne sais pas si la crise là inspire plus le cinéma que d'autres situations sociales et historiques données. Je crois même que peut-être que de ce point de vue-là, il y a une sorte d'assèchement depuis assez peu de temps en fait d'une relation du cinéma à son réel ou son horizon politique contemporain. En tout cas, en termes de création et d'invention, il y a eu un vrai retour de ces questions-là. Je crois dans les années 90. En tout cas, qui a été extrêmement dynamique dans le cinéma français. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il y a une espèce de confusion ambiante. Voilà, où est la France ou quelle France, par exemple, on a dans le cinéma contemporain qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on en voit de ce qui nous traverse les uns et les autres, d'un point de vue politique, social, économique, culturel, etc. Comment est-ce que ça, c'est visible, et qu'est-ce que le cinéma en donne à voir ou à penser qu'on ne pourrait pas penser sans lui? Là, je sais pas, je pense que c'est très curieux.
Le mot maître me paraît tout à fait mal adapté. On verra tout à l'heure l'aspect du chien, et on verra pourquoi, parce que je pense qu'il faut approfondir, et il est très intéressant de la part des gens qui ont choisi ce titre, sans même qu'ils s'en rendent compte parfois. Mais en tout cas, déjà, le mot maître, c'est les clichés les plus éculés du 19e siècle, et des anarchistes en particulier, ni Dieu ni maître. Ça, c'est l'aspect qui n'est pas l'aspect animalier, mais qui est l'aspect purement humain. Et au 20e siècle, les chefs d'entreprise n'en sont pas à ce niveau-là. Et de façon tout à fait insidieuse, dans le mot maître, il y a des relents d'un certain nombre de théories philosophiques de la fin du 19e qu'on ressent immédiatement. Deuxièmement, en ce qui concerne le chien, tout à fait évident qu'on pense au chien, et le chien, quelle est sa caractéristique? C'est d'entendre la voix de son maître et d'obéir en principe à la voix de son maître s'il est bien dressé.
Je ne sais pas du tout aujourd'hui ce qu'il faudrait faire, mais je pense qu'effectivement, il faut continuer à raconter des histoires, parce que je pense que c'est le seul moyen de partager des expériences, quoi. Et peut-être que le cinéma a justement ce rôle comme ça de vecteur privilégié, parce que par le biais de récits, il est effectivement en capacité d'interroger de manière très précise quand il travaille avec intelligence. Le cinéma n'est pas là pour apporter des réponses, je pense qu'il a une capacité remarquable à pouvoir nous interroger, quoi. En tout cas à questionner nos hiérarchies et puis Et puis les perceptions comme ça, parfois un petit peu figées, qu'on pourrait avoir des choses en disant « Ah mais ouais, mais si on tourne un peu autour, on les voit pas tout à fait pareil, quoi. » Et je crois que là, on est dans une situation de telle confusion entre le fait qu'il y a une grande inquiétude, je crois, de tout le monde sur le pouvoir réel qu'a la classe politique dans un système qui nous paraît entièrement guidé, gouverné, dirigé par la finance internationale. En tout cas, on ne sait plus trop où les gens peuvent douter de ce à quoi leur servent véritablement les politiques. Et je crois qu'effectivement... En ce moment, on est plutôt dans une stratégie où chacun essaye de trouver un peu sa place, bon an, mal an, pour assurer son présent et ce qu'il peut de son avenir, plutôt qu'à véritablement construire à plusieurs, de manière collective, comme ça, autour d'une vision partagée et débattue de l'utopie et peut-être les perspectives d'une société nouvelle. Mais si jamais le cinéma devait répondre à ça, il faudrait aussi que lui-même soit en capacité de proposer des représentations, des perceptions nouvelles, quoi. Et bon, et là, tout l'enjeu, à un moment donné, quand il y a un élan, il faut, ou le sentiment qu'il y a un élan autour, il faut être en capacité de lui donner un véritable écho et un écho particulier, quoi.
On ne peut pas prétendre qu'un titre de quelques mots ou même de quelques lignes soit l'image fidèle d'une œuvre. On peut lui demander d'être authentique, c'est-à-dire que celui qui lit ce titre a une idée de ce qu'est l'œuvre. Et, bien entendu, les chefs d'entreprise, le management, on pourrait faire un titre de 3 pages. C'est pourquoi, je le répète, à mon sens, ce film cherche à décrire une catégorie particulière de citoyens qui, dans la pratique, est appelée les patrons. Et il me semble que si on disait les patrons, certains y mettront un ton péjoratif, d'autres une nuance au contraire, un petit peu 19e siècle, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est encore ce qui me paraît à la fois le plus honnête, ce qui est le moins une contre-pétrie, un jeu de mots ou une pirouette, et j'en tiens pour ma proposition d'appeler le film les patrons.
Quelles 2 ou 3 idées vous avez envie de développer le 1er octobre ?
Moi, je suis très attaché au rapport que le cinéma entretient à l'histoire de manière générale, quoi. En tout cas, c'est un des grands sujets, parce que je suis persuadé que le cinéma n'est pas seulement une matière qui permet de se souvenir, mais a une capacité à organiser une sorte de narration du temps passé pour lui donner une actualité, quoi. En fait, quand on tourne quelque chose, on est toujours quand quelqu'un filme, donc effectivement, il enregistre quelque chose qui se passe au présent, mais ce qu'il enregistre une fois qu'il a terminé de le faire est déjà d'une certaine manière du passé. Mais ce passé a déjà un avenir puisqu'il va être reçu demain, après-demain, etc. Et je trouve que d'interroger comme ça la question autour du travail que fait le CHT sur la gestion d'une collection, d'une archive, etc., la manière dont on la rend vivante, dont on entretient la réflexion autour de ça, effectivement, probablement, et pourquoi le cinéma dans ce cadre-là, puisqu'effectivement ils sont présents au cinématographe depuis quasiment les débuts de notre activité, et pour nous ça paraissait totalement naturel ou logique que le CHT puisse avoir une place dans ce travail de diffusion et transmission associative qu'on fait au cinématographe. En tout cas, ça nous paraissait être un élément de la carte presque incontournable, quoi. Et comment plus ça, il y a une grande détermination de l'équipe du CHT, effectivement, à continuer à travailler de manière régulière, y compris avec nous, parfois sur des objets qui ne sont pas de leur environnement, mais de se nourrir, effectivement, de la réflexion. Enfin, on apprend énormément les uns des autres, je pense que ça, c'est extrêmement précieux.
J'aime beaucoup le terme patron, et pour la raison suivante, c'est que c'est le terme le plus simple, c'est le terme le plus banal, c'est le terme le plus humble. Jamais vous verrez quelqu'un dans une entreprise autour d'une machine qui vous dira « Oui, chef d'entreprise ». Ça n'existe pas, ça ne passera jamais.
Merci patron, c'est une image tout à fait ridicule.
Et le mot patron en France a un inconvénient, c'est qu'il est chargé de tout un arrière-plan d'affectivité qui a été appris aux gens, justement. Enfin, très fréquemment, aux États-Unis et dans de tas d'autres pays, on voit des gens qui disent « Oui, boss, oui, boss ».
Là, vous vous inscrivez dans ce qu'on appelle l'histoire du temps présent.
Oui, on s'inscrit dans l'histoire du temps présent dans la mesure où, en plus de ça, je crois que les publics auxquels on s'adresse aujourd'hui et ceux auxquels on s'adressera demain ne seront pas forcément les mêmes, quoi. Et je pense qu'il y a effectivement des interrogations à avoir sur les pratiques qu'on a en tant que médiateur, puisque finalement on fait se rencontrer des objets ou des formes et des gens qui sont là pour les recevoir, à s'interroger sur quels outils et quels choix on fait et quelle sensibilité on peut avoir à ceux qu'on rencontre pour être sûr qu'il se passe quelque chose quand on met les gens en face des œuvres. Et que si là on a des propositions qui nous semblent par moments fonctionner, je suis pas persuadé que dans 7-8 ans elles seront encore pertinentes et qu'il faudra à nouveau. Et je crois que faire l'histoire du temps présent, c'est non seulement savoir comment on assure un lien entre du présent vers le passé, ou comment on interroge avec des outils présents le passé, mais aussi comment on met en relation des œuvres, des formes, des situations avec un public, quoi. Et effectivement, là, je crois que c'est aussi la richesse du travail cinématographe, c'est que les expériences qu'on arrive à cumuler comme ça au sein du groupe de programmation sont extrêmement plurielles, quoi. Donc ça nous permet parfois d'affûter, enfin en tout cas de préciser le tir avec parfois, heureusement, une certaine pertinence.
Pertinence, ça veut dire aussi réalisme.
Et moi, je suis pas persuadé que le cinéma ait par nature besoin d'être réaliste, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par réalisme quand on parle de cinéma et quand on parle de la réalité à travers le cinéma? Moi, je pense que c'est probablement un modèle dominant, mais moi, ce que j'appelle le réalisme au cinéma, c'est le cinéma hollywoodien, par exemple, quoi. Y compris quand il fait Batman ou Captain America, quoi. C'est la fabrication d'une illusion auquel le spectateur adhère pendant 1h30 ou la durée du film, de croire que Batman existe vraiment, etc. Pour moi, ça s'appelle le réalisme. Et ces films-là sont pas forcément totalement coupés du réel d'une certaine manière, ou à leur manière. Quand il s'agit d'approcher une réalité sociale, humaine, contemporaine ou passée, effectivement, on pourrait imaginer que on se retrouve plus facilement, parce qu'on arrive à bien repérer les choses, etc., et que ça implique une certaine forme de réalisme. D'ailleurs, souvent, dès que le film sort de ces rails-là, les gens ont tendance à penser que c'est plus vraiment du cinéma, que le jouet est cassé. Parce que ce qui est très troublant avec le cinéma, c'est qu'on a à la fois besoin de s'évader et en même temps de se retrouver très concrètement avec la réalité. On arrive à être ailleurs et en même temps, on veut pas être totalement perdu, quoi. Il y a toujours une relation très ambivalente du spectateur avec ce médium, quoi.
Moi, je voudrais ajouter pourquoi, au fond, j'aime pas non plus ce mot de patron. Je crois que c'est l'étymologie qui nous gêne, hein. Patron vient de pater, hein. C'était le pater familias avec sa puissance tout à fait exagérée dans la famille ancienne. Et finalement, il y avait la famille et puis il y avait la cité. Or, l'entreprise, c'est un corps intermédiaire nouveau qui s'est créé et finalement très éloigné de la famille. D'ailleurs, une famille ne peut plus dominer une entreprise. Elle ne peut plus travailler seule dans l'entreprise, sauf quand elle est petite. Dès qu'il y a eu moyenne et grande entreprise, c'est devenu une entité sociale, sociologiquement parlant, complètement différente. Et c'est pour ça que le mot patron, au fond, est mal adapté, si vous voulez, à l'idée que nous faisons du chef d'entreprise.
Deux ou trois films qui rentrent en écho avec tout ce que vous m'avez dit.
Là, dernièrement, j'aurais peut-être pas grand-chose à citer dans le cinéma français sur ce truc-là. En tout cas, il me semble qu'il y a un grand film politique ces derniers temps. En France, il n'y en a pas si souvent que ça. C'est probablement le film d'Alain Cavalier, Pater, quoi. Un, parce que justement, c'est vraiment un film sur la représentation, sur la manière dont on se pose la question de mettre un réel politique en scène, que le film embarque à la fois un geste documentaire, puisque les acteurs se désignent en tant qu'acteurs dans le film, mais à un moment donné, c'est tellement jubilatoire de devenir le personnage qu'on cherche à être, que la confusion s'organise, et pour le coup, on voit aussi, à distance comme ça, de manière réflexive, le jeu s'inverser, à savoir la manière dont les politiques eux-mêmes jouent des rôles, quoi, alors qu'ils sont des personnes réelles, quoi. Et je crois que finalement, cette espèce de question prend Cavalier comme prétexte à la nomination d'un nouveau Premier ministre dans son gouvernement dans le film, qui est une question complètement tarte, etc. Et peut-être une question qui mériterait d'être débattue plus quand on voit toutes les histoires qui entourent la question fiscale aujourd'hui, de se dire quel écart est acceptable entre le plus bas et le plus haut salaire, quoi. C'est 1 à 5, c'est 1 à 10 ou c'est 1 à 15, quoi. Et que sous l'air de la blague, finalement, le film déplace une question qui pourrait potentiellement ou peut-être aurait une pertinence à être au cœur d'une campagne présidentielle, quoi. Le cinéma est toujours dans la fabrication de quelque chose, quoi. Et y compris quand il est dans un geste documentaire, quoi. Quand on tourne, on n'enregistre pas le réel, on le met vraiment en scène. Alors après, il y a 50 000 manières de mettre en scène, et c'est probablement dans les choix que font tel ou tel cinéaste qu'on se dit, voilà, là il y a un travail pertinent ou un regard singulier, en tout cas intéressant. Et puis là, pas du tout. La démarche ou le dispositif engagé, à un moment donné, nous fait construire une certaine forme de réticence. Et là, on rejoint la question des pratiques, aussi bien de notre côté quand on est le relais de ses œuvres, que pour les cinéastes qui les fabriquent. Bon, je pense, allez, il y a énormément de fiction française de ressources humaines, en passant par le film de, comment il s'appelle, C'est un film qui était vraiment pas mal sur un film de Moutou, là, Échange en milieu tempéré, je crois que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça. Ou le réel de l'entreprise, ou en tout cas, du point de vue d'un jeune cadre qui débarque pour faire sa carrière, etc., avec tout ce que ça peut impliquer. Et ces films-là sont relativement intéressants parce que justement, ils font le pont entre un postulat complètement théorique, qui est celui de la formation reçue, par exemple, par ces jeunes cadres qui viennent dans les entreprises pour remettre un peu d'ordre, ou se voient confier une mission ponctuelle d'audit, ou je ne sais pas trop quoi. Et puis finalement, l'arrêté social, et on voit l'impact d'une décision sur le corps à la fois social, mais aussi individuel et psychologique des personnages. Et ces films qui ont une vraie vertu dans leur détermination, puisque je crois qu'ils montrent bien aussi quel peut être le clivage entre la manière dont on écrit, on appréhende le réel quand on y est extérieur, et puis le moment où on se retrouve face à lui et qu'il faut composer avec, et que finalement, des méthodes ou des décisions qu'on a appris à mettre en œuvre, d'un point de vue théorique, les choses se passent pas du tout pareil quand on est en situation de les réaliser, quoi. Et je pense que ces films ont une qualité didactique de fiction assez exceptionnelle, quoi. Finalement, il n'y en a pas tant que ça quand on les regarde de plus près. Le cinéma est un peu dans une situation qui est liée à la confusion ambiante du moment. Il sait pas trop sur quel pied danser. On est loin, effectivement, des prises de position comme ça, d'un cinéma militant qui pouvait... le cinéma militant fréquemment a pas produit d'œuvres, mais du discours, plus ou moins voilà intéressant, et du point de vue politique, et rarement du point de vue cinématographique. C'est souvent des films de revendication ou d'engagement. Là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, la nature de l'engagement et de la réflexion sur le réel à partir de l'outil qu'est le cinéma génère potentiellement aussi des formes ou des œuvres.
Jérôme Baron, président de l'association Le Cinématographe, est l'invité du magazine réalisé à l'occasion des 30 ans du CHT.
Là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, la nature de l'engagement et de la réflexion sur le réel à partir de l'outil qu'est le cinéma génère potentiellement aussi des formes ou des œuvres. Bon, ça a existé, hein. En tout cas, il y a eu des tentatives comme ça. On peut penser historiquement en France au fameux groupe Medvedkin, les usines de Sochaux, Besançon, etc., qui d'ailleurs a été encadré à nouveau par René. Marqueur y est allé activement, Godard y est passé puisqu'il a volé du matériel pour eux, etc. Il y a tout un tas d'ingénieurs ou techniciens français aussi qui se sont engagés à former les ouvriers pour qu'à un moment donné, le discours qu'ils tiennent sur leur situation et leurs interrogations du moment, qui étaient celles de 67, 68, 69, 70, grosso modo, soit émancipé finalement d'une tutelle de la profession, qui soit même en capacité de créer un cinéma qui leur ressemble et qui leur appartient, quoi. Je crois qu'on est assez loin de tout ça. Et pourtant, paradoxalement, on est peut-être dans une situation où les techniques contemporaines, la vidéo, etc., est tellement accessible, y compris le montage et tout un tas d'outils comme ça, que les gens pourraient utiliser pour finalement être des témoins ou engager des réflexions singulières sur leur présent. Ce qui est assez intéressant avec Mordillas, c'est le spectre absolument colossal de ce que son œuvre recouvre, puisqu'effectivement, on peut l'attendre autant sur ces questions d'histoire, d'engagement politique, de cinéaste engagé, de personne qui a traversé un certain nombre d'époques et de temps et de situations et qui a la capacité d'en témoigner, qu'en même temps son intérêt est totalement surprenant pour, en tout cas a priori à distance comme ça, pour quelqu'un qui était encarté au Parti communiste et autres, pour l'histoire sainte, le Corpus Christi et autres, il y a quand même un certain nombre, pratiques cinématographiques, pratiques journalistiques, écriture romanesque, création documentaire, film de fiction, voilà, c'est vraiment un personnage...
Comédie.
Et puis ça, sur des tonalités complètement différentes, parce que même si il y a des travaux qui sont très sérieux et très austères, il y en a d'autres qui sont au contraire totalement drôles et débridés. Non, je pense que c'est plutôt une personnalité assez fascinante. Mais ce qui est remarquable chez Mordillas, c'est effectivement la rigueur à chaque fois de la nature de l'engagement dans ce qui est entrepris, quoi. On ne fait pas les choses à la légère en sautant justement comme ça du coq à l'âne de manière totalement gratuite. C'est assez. Moi je suis vraiment très 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 content qu'il ait accepté l'invitation du CHT et du cinématographe à nous rejoindre pour cet anniversaire, quoi.
Merci à Jérôme Baron pour sa libre participation à cette émission. Les illustrations sonores proviennent de La Voix de son Maître, un documentaire signé Gérard Mordillas et Nicolas Philibert, Gérard Mordillat, invité au cinématographe à partir du jeudi 29 septembre, invité à participer en compagnie de Jérôme Baron et d'Anne Mathieu à une table ronde le samedi 1er octobre à 17h au lieu dit la Maison des Hommes et des Techniques.